RMC, les archives de l'after.
Jérôme Bretel est là, Daniel Riolo également. Évidemment, Paris au programme ce soir, le Barça qui a battu le PSG 6-1. I6, c'est Paris, nous dit Samir sur Twitter, sur le petit blog du soir. Alors, ça chambre évidemment dans tous les sens. Ça va continuer pendant plusieurs jours sans doute. On va essayer d'élargir un peu le débat. Mais d'abord, accueillons Cyril parce qu'on a énormément d'appels ce soir au 32-16. Vous imaginez bien, beaucoup de supporters parisiens, pour certains très en colère. Cyril, est-ce que tu fais partie des gens ce soir en colère ou plutôt dépité par le scénario du match?
Alors, en l'occurrence, je vous remercie parce que, comme tu le dis, on est nombreux à vous le rappeler et je vous remercie vraiment de me prendre à l'antenne parce que la colère, elle est pas là. C'est vraiment un sentiment complètement unique. Comme disait Daniel, de toute façon, on ne le reverra pas. Donc, point à la ligne. J'avais juste envie de vous dire tout à l'heure, je disais à votre collègue que j'avais pas forcément plus envie que de ça, que de parler du match parce qu'il est tellement, il s'est passé tellement de choses que entre les pénaux, machin, enfin, je veux pas parler ni d'arbitrage ni quoi que ce soit, mais en fait, je pars demain au ski avec mes amis, mes témoins de mariage, et demain, j'ai mon pote marseillais qui va me faire manger. J'ai eu bien de lui négocier, s'il te plaît, ne pourris pas le week-end. Il pouvait pas se passer ça. Et il me dit, on va voir. Demain, on va, il y a de la puff pendant 2 jours avec du soleil. Je devais voir un match. Moi, je suis parisien depuis la première heure. Et ce soir, il se passe un truc qui est tellement inexplicable que je vais pas vous l'expliquer. Je sais pas. J'ai pas envie d'être en colère. J'ai pas envie, mais je suis juste un truc qui me prend les tripes. Et demain, ça sera passé parce que demain, je vais aller faire du ski avec mes témoins de mariage et un ami. Donc voilà. Je voulais vous remercier de m'avoir donné l'antenne, de m'avoir mis l'antenne. Et puis voilà, et vous, qu'est-ce que vous avez à dire à tout ça? C'est un truc de fou.
On a déjà dit beaucoup de choses. Hein.
Bah ouais, Daniel, je t'entendais tout à l'heure. Enfin, Jérôme qui va manger son rat. Mais il peut rien faire d'autre, le pauvre. Et je compatis, Jérôme. Mais moi aussi, à 3-1, Jérôme, je disais, allez, même Marquezon à 4-1.
Tu viendras le manger avec moi, là.
Ouais, si tu veux, Daniel.
Ouais, parce qu'il va être long à manger.
Jérôme. Mais en l'occurrence, à 3-1, moi aussi, j'ai dit dans un bar, on était 45, il y avait 5 Parisiens. J'ai dit, les gars, à 3-1, j'aimerais bien qu'ils en marquent un quatrième, histoire que vous vous amusiez un peu. Mais c'est pas possible que ça se termine comme ça. Tu vois? C'était pas possible. C'était simplement pas possible. Et ça nous tombe sur la tronche des Parisiens, avec tout un tas de Marseillais. Daniel, tu disais tout à l'heure que Twitter, c'était un l'égout du machin. Eh ben, je vais te dire une chose. Moi, j'ai des amis d'enfance. Eh ben, ils sont pas plus. C'est dans les égouts aussi qu'on reçoit les textos, nous tous, là. Parce que mon pote Chuchu, qui est à côté de moi, on reçoit des textos de fous de nos potes marseillais parce qu'obligatoirement, on ferait presque pareil si c'était l'inverse avec l'ON. Mais ça n'aurait jamais dû arriver. C'est pas possible. Voilà. Donc, c'est dommage. On n'est pas en quart. J'aurais bien aimé y être. Je vais pas regarder les cartes tout de suite, je vais supporter Monaco, parce que d'abord, voilà. Mais c'est un truc de fou, les gars. C'est 6-1, c'est même pas possible. C'était pas inconcevable. Il y a pas un. Les 4-0, Fred Hermel, il disait la remontada possible, là. Vous savez ce qu'est? Enfin, moi, je suis mi-français, mi-espagnol. Mon père est valencien. Donc, moi, les Catalans, en plus, je les porte pas forcément dans mon cœur en tant que valencien, mais juste, voilà, amicalement. Mais en l'occurrence, ce qui se passe là, le Fred, il doit dire, mais c'est pas possible. Enfin, ça, quand il dit que sa Liga, c'est la meilleure Liga du monde. Ce soir, le Barça. Est-ce que vous avez vu un beau match? Non. C'est unanime. Les gens le disent bien. On n'a pas vu un beau match.
Non, mais aussi, on a vu du gag. On a vu un
beau match, là.
C'est pas une question de beau match.
Je pense que tu devais être étouffé par l'émotion.
Toi, évidemment, t'as pris tout ça dans la tronche. Mais en termes de dramaturgie, de rebondissement et tout, c'est un match incroyable.
Messieurs, le football n'est pas du théâtre. Dramaturgie, si vous voulez. Moi, je vais pas.
Souvent, le foot l'est.
Les grands matchs, c'est des matchs qui sont hors du temps.
En Coupe d'Europe, c'est souvent du théâtre.
Il y a souvent
une dramaturgie comme ça.
Le Monaco, la couronne de Jérôme, il est hors du temps. Le Séville est hors du temps.
Après, connaître ce genre de choses, il faut aller en Ligue des Champions. Certains clubs y vont, d'autres non.
Exactement.
Quand tu te fais sortir en poule, c'est sûr que tu vis pas
genre. Je vous pose une question, les gars.
C'est sûr, quand tu fais 6 matchs de poule, 6 défaites, c'est dur. Hein.
Je pense que c'est pas la peine ce soir qu'on fasse une évaluation parisienne, parce que de toute façon, à part Cavani.
À part Cavani à qui je mets 5, tu vois. Il n'y a pas grand chose à sauver. Les autres, c'est autour de 2
mais
ou 1.
Dans quelle mesure, parce que nous, hier soir, on était les premiers à parler de la remontada, dans quelle mesure le PSG a perdu ce match avant de le jouer, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Dans tout ce qui s'est dit, dans cette espèce de surassurance qui débordait.
Oui, mais. Ok, mais il n'empêche que ça ne peut pas être une excuse. T'es au niveau des huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Si tu ne peux pas aborder... C'est marrant parce qu'on en a parlé aussi bien chez Duga que tout à l'heure ici à BFM Sport avant le match. J'ai beaucoup parlé d'intelligence émotionnelle, de gestion des émotions. Franchement, je pensais pas que ça allait être à ce point-là important. Je disais, c'est dans le calme, c'est comment tu réagis quand t'es mené 1-0 au bout de 5 minutes, si t'es mené 2-0 au bout de... En plus, j'ai décrit tout ça tout à l'heure, mais je pensais pas putain, voir ça. Je pensais pas que les mecs n'allaient pas réussir à gérer à ce point-là un tel événement.
Non, mais le pire, c'est honteux, c'est gravissime.
C'est que tu peux pas gérer ça.
Ça peut t'arriver et à ce point-là. Moi, je me souviens, voilà. Nous, l'année de la Ligue des Champions, en 2004, tu vois, je ne vais pas passer mon temps à parler de mon histoire, mais si je suis un peu là, c'est pour apporter mon expérience. C'est que quand on va jouer au Real Madrid avec Monaco, on fait une super première mi-temps, puis la deuxième mi-temps, on est plombé. Parce que eux, ils nous mettent un rythme d'enfer, on est pris par l'ambiance dans ce stade à Bernabeu, et on prend 4 buts en 20 minutes. Un truc hallucinant, alors qu'on avait résisté toute la compétition. Tu vois, et ben le Paris Saint-Germain, ça a été ça en première mi-temps. Mais où je suis étonné d'autant plus, c'est qu'en deuxième mi-temps, ils sont mieux, c'est ce qu'on disait, ils sont plus hauts, ils se créent des situations intéressantes, ils arrivent à ressortir le ballon. Et en plus, il y a ce but de Cavani qui les qualifie presque à 3-1. Et que tu te dis, bon là maintenant, ils vont être en gestion, ça va bien se passer. Et puis, ils retombent dans leur travers à la 85e minute, quoi, après l'occasion de Di Maria. Et c'est ça que je comprends pas. C'est là j'ai du mal à l'expliquer. C'est que là, il y a eu des grosses lacunes, des grosses failles ce soir sur certains joueurs. C'est pas possible d'arriver à la 88e.
Tu passes du génial à l'aller au catastrophique au retour.
Ouais, c'est un truc, je vous donne une petite stat. 176 passes à Paris ce soir.
Ouais,
c'est ridicule.
C'est dramatique. Au niveau du jeu, c'est dramatique.
C'est dingue. Ils n'ont jamais fait ça dans tous les matchs de Coupe d'Europe de cette année, de l'année d'avant, de l'année encore d'avant, de tous les matchs que le PSG a pu faire.
Même le Slovan Bratislava, c'était mieux.
Non, mais c'est surtout avec l'équipe qu'il a mis en place. Il joue avec Krikoviak, avec Matuidi, tu te dis, bon, bah là, il refuse le jeu, il veut fermer, d'accord. Mais là,
en gestion de l'émotion, tu as fait le match que le PSG a fait contre Chelsea, le but de Dembaba. C'est ce match-là. En fait, tout le match, tu as subi. Ouais. Et tu sens que ça va finir par tomber sur le carafon.
Il suffisait.
Chelsea ne devait en mettre que deux, pas autant que ce soir. Et il les avait mis but un peu à la fin.
Non, c'est pire.
Ben là, oui, c'est pire.
C'est pire.
Oui, c'est pire.
Pendant une demi-heure, t'es qualifié.
Non, mais l'approche mentale où, en fait, tu déjoues par rapport à ce que tu fais d'habitude. C'est parce qu'à l'époque, Paris jouait plus haut, essayait d'avoir le ballon. Et là, d'un coup, ils s'étaient tous mis derrière, ils avaient reculé et ils avaient fini par craquer. Donc ça s'était joué dans la tête et on avait dit à ce moment-là, l'entraîneur ne communique pas cette grinta. Ça s'est vérifié ensuite. Celui qui arrive doit faire progresser l'équipe. On sent le progrès sur ce match aller complètement dingue.
Et
un des plus beaux de l'histoire du club. Et là,
et
tu vois tout l'inverse.
La chute libre sur ce match.
C'est
la catastrophe. Moi, ce que j'aimerais savoir, je ne sais pas si Emery le dira en conférence de presse, c'est la stratégie qu'il a mis en place. Parce que moi, je veux pas croire que Emery, il ait dit à ses joueurs, les gars, on va jouer dans nos 30
mètres. Tous derrière, je ne crois pas une seconde non plus.
On va jouer avec des latéraux resserrés. Et avec Drexler, presque comme un cinquième, du moins un latéral gauche en première mi-temps, et de l'autre côté, la même chose avec Lucas. Je pense pas qu'il ait dit ça, c'est pas possible. Parce que s'il a dit ça, là oui, là je mets encore plus de responsabilité sur lui. Mais moi je pense que c'est les joueurs qui se sont adaptés entre la peur, le souffle coupé et les jambes qui avancent pas. Et ben quand tu te sens pas bien, tu te recroquevilles face à une équipe qui en plus a le ballon et qui met du rythme, tu te remets sur ton but et tu joues dans tes 30 mètres. Et là ils ont complètement déjoué, même 25 mètres. J'ai même vu Cavani presque sur la ligne des 18 mètres au bout d'un moment. Donc pour te dire.
Tiens, alors faut toujours prendre un peu de recul. Le chambrage dans le foot, ça va
exister. Nous on en prend depuis le début. Ceux qui pensent qu'on est,
On a reçu il y a quelques semaines Romain Canuti dans l'after, vous savez, cet influenceur marseillais. Mmh. Il tweet ce soir, il nous dit « Dembaba, le petit pont de Suarez sur David Luiz, le 3-5-2 de Laurent Blanc et maintenant la remontada, Paris en Ligue des Champions, finalement c'est la meilleure série sur Canal », dit Romain Canuti. Allez, Ahmed au 32-16 est là. Salut Ahmed.
Salut les garçons.
Salut Ahmed.
Bon, allez, donne-nous ton sentiment d'abord, avant qu'on rentre un peu plus dans les détails de ce que tu veux dire sur le jeu.
Ouais, je voulais juste ouvrir une parenthèse. Romain Canuti, je l'ai vu sur le Fossien, il parlait pas trop après que son équipe se soit effondrée au Vélodrome. C'est juste une parenthèse. parce que moi, j'écoute aussi ce que dit l'adversaire. Voilà.
Bon, voilà, comme ça, c'est placé.
Voilà, moi, j'étais en état de choc. Et puis après, j'ai essayé de remonter un peu la pente. Il y a des choix qu'a fait Emery, comme vous l'avez dit, qui sont catastrophiques. Lucas contre Nancy, il est catastrophique. Contre Toulouse, il est catastrophique. On le met titulaire contre le Barça. Il n'a pas réussi à bouger Nancy, il va faire quelque chose ce soir. Pastore, on se dit, il va jouer, on ne le voit pas. Krikoviak qui rentre, Aurier qui rentre, c'est lunaire. Enfin, on se demande. Franchement, il y a eu des choix du coach qui sont catastrophiques. Marquinhos, moi je pose une question sur notre charnière avec nos deux monstres, Marquinhos et Thiago Silva, et deux Brésiliens qui ont été transparents, j'ai l'impression qu'ils se donnent la peur l'un l'autre.
Le dossier Thiago Silva commence à devenir inquiétant quand même.
Eh oui.
Il ne communique rien du tout comme sérénité. Ça aussi, il faudra analyser ça. Tu vois, il faut sortir. Ouais, c'est ce que je dis tout le temps.
La faille psy de Thiago Silva, c'est pas une nouveauté.
On la connaît.
Ouais, mais bon,
je dis toujours qu'il faut
une
sortir
fois,
de l'émotion positive pour ceux à qui ça fait plaisir, négative pour ceux à qui ça fait de la peine. C'est toujours très dur après les matchs. On en a fait 1000 des matchs de Coupe d'Europe qui ont mal tourné pour les équipes françaises. Ça continue ce soir dans des proportions.
On en a pas fait 1000 avec ce scénario. Je crois que c'est le seul.
Non, comme ça, non, avec cette proportion-là. Moi, j'essaye toujours de sortir de l'émotion. Moi, une défaite, une victoire des clubs français, quels qu'ils soient, ça ne m'a jamais réellement touché. Mais il faut essayer de prendre du recul, voir effectivement que des joueurs ce soir ont perdu très très gros. Je parlais des jeunes tout à l'heure, mais que dire justement d'un mec comme Thiago Silva? Ça commence à faire lourd. On parlait de bouc émissaire tout à l'heure après le 7-1. Qu'il n'avait pas joué.
Ouais, et pourtant,
il avait morflé en étant le bouc émissaire. Le Brésil s'est relevé en l'écartant. Je ne sais pas s'il reviendra. Là, ça commence à devenir lourd.
Les gars, je vous arrête. On a Georges Quirino avec nous. Il est dans les entrailles du stade à Barcelone avec peut-être des premières réactions, notamment peut-être la première réaction après la conférence de presse de Unai Emery. Georges, bonsoir. Qui as-tu entendu et qu'est-ce qui s'est dit?
Alors, Unai Emery, là, qui est arrivé en conférence de presse il y a quelques instants, l'entraîneur parisien. Alors, ça a été très rapide, il y a eu 5-6 questions seulement, on l'a vu avec le visage marqué, très clairement, un peu sous le choc, visiblement, Unai Emery. Alors qu'est-ce qu'il nous a dit? C'est un mauvais moment, voilà, pour eux tous, qu'ils avaient perdu surtout une grande opportunité de grandir. C'est une expérience très négative pour moi et pour nous, a dit Unai Emery, ça nous servira pour le futur, mais nous n'avons pas réussi à surmonter l'envie du Barça, voilà. Il a insisté également sur le fait qu'il y avait eu des erreurs arbitrales, en fin de match, notamment avec le penalty sur Suarez transformé par Neymar. Voilà, il dit il y a eu des décisions en faveur du Barça et pas pour nous. Je ne dis pas que c'est la première raison, mais il y a eu des décisions un peu douteuses. Voilà, sur le jeu, Unai Emery nous a dit qu'ils avaient essayé de reproduire un peu ce qui s'était passé au match aller, de reproduire la même envie parce qu'ils avaient cette même confiance en leur jeu et qu'ils n'y sont pas parvenus parce qu'ils n'arrivaient tout simplement à sortir de leur camp. Voilà, donc. On sent un Unai Emery très atteint ce soir. Ça a été très rapide et il a quitté cette conférence de presse. Et on attend maintenant Luis Enrique avec un tout autre visage, j'imagine, pour le coach du Barça.
Des joueurs peut-être qui sont passés devant toi?
Non, pas encore. Les joueurs, ils sont dans un autre côté du Camp Nou, pour tout te dire.
Ah, d'accord.
Donc moi, je verrai un peu
les
joueurs du Barça qui vont arriver. Non, moi, je pense que je vais plutôt entendre les cris de joie des Catalans, malheureusement, pour les supporters parisiens, qui arriveront dans quelques instants ici, à côté de nous.
Merci, Georges. Tu nous rappelles si, avant minuit, il y a d'autres infos à partager, bien sûr. Donc, Emery n'a pas, comme le disait Fred tout à l'heure, comme le disait
Jean-Marie Vézuel,
n'a pas démissionné ce soir dans sa conférence de presse.
Il est évident que ce soir, on voudra lui taper dessus. Il y a trop de gens qui, depuis le début de la saison, misaient là-dessus pour que ce soir, ils ne se vengent pas et après avoir tourné leur culotte il y a 3 semaines. Mais encore une fois, je vois pas comment il va pouvoir se remettre de ça. S'il le fait, tant mieux. Avec quelle confiance, avec quel joueur, comment? Ça va être un moment très, 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 très compliqué. Mais est-ce qu'en 82, après un drame national, on a viré Hidalgo? Parce qu'on a tout mis sous le coup de l'émotion. Mais sur ce match-là, tu peux aussi dire qu'il y a beaucoup d'erreurs tactiques aussi. Même si il y avait eu drame et qu'à l'époque, la critique autour du foot n'existait pas.
On avait tout mis sur l'arbitre.
Voilà. Mais on a toujours fait ça chez nous.
On
a parlé d'Ancelotti tout à l'heure.
Accordé,
on a parlé de Guardiola qui a connu... Alors, c'est vrai que ces mecs-là avaient gagné avant. Donc forcément, quand tu as gagné avant Ligue des Champions, on t'excuse un peu plus. Celui-là n'a gagné que de l'Europa League, ce qu'ont fait à peu près tous les entraîneurs français. Lui, on peut définitivement l'enfoncer. S'il est prêt à repartir, mais je sais pas comment. Je sais pas, parce que la façon dont il était tendu au début du match, c'est quand même pas bon signe, quoi. Pourquoi était-il si tendu? Pourquoi après un 4-0 à l'aller, ou au contraire à l'aller, il avait dégagé énormément
de tranquillité? Parce qu'il avait jamais battu le Barça, peut-être.
Oui, mais... avec une telle avance. Pourquoi, dès le début, tu as senti des visages aussi tendus et pourquoi lui était déjà en apnée? Pourquoi lui était déjà avec le souffle coupé au début de la partie. C'est quand même compliqué.
RMC, l'after mythique.